Père Gilles François, vous êtes actuellement président de l'Association des Amis de Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, une femme, une laïque,
Oui.
engagée dans l'Église.
Oui.
Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, vous, un homme et un prêtre?
Oui, c'est une figure dans le diocèse de Créteil parce qu'elle était à Ivry-sur-Seine, tout près de Paris. Elle y a vécu pendant de nombreuses années, de 1933 à 1964. Notre évêque, le père Frételière, il y a déjà 20 ans, a introduit sa cause en béatification. Alors, on commençait à en parler. Puis je me souviens, j'ai un souvenir ancien aussi, d'avoir vu ce livre, Nous autres gens des rues, sur le bureau de mon aumônier de lycée. Voilà. Mais après, je m'y suis intéressé plus tardivement en emmenant quelques amis à la maison de Madeleine Delbrel. J'avais un groupe de prêtres à véhiculer dans le Val-de-Marne. Je les ai emmenés chez les compagnes de Madeleine en 1996, je me souviens. Et là, nous avons été reçus, tellement bien reçus, il y a eu un partage que, bon, en fait, elles m'ont raccroché, quoi. Puis j'ai été amené à faire une conférence, il y a déjà 8 ans, sur Madeleine Delbrel. Et par scrupule, je me suis imposé de lire tout ce qu'il y avait de disponible à l'époque de ses écrits. C'est un peu ma tournure d'historien, de ne pas se contenter de ce que les autres ont dit, mais d'aller lire directement ce que la personne dit. Voilà. Et ça m'a déjà bien marqué, profondément marqué. J'ai été nommé curé à peu près au même moment, curé de paroisse, sur plusieurs communautés.
Là où elle a vécu.
Oui, dans le sud du Val-de-Marne, à Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger. 2 paroisses, 3, 4 communautés, 4 aumôneries. Donc c'est tout un ensemble pastoral. Donc le prêtre, dans sa posture traditionnelle, peu omniprésente, ne pouvait plus avoir cours. On est en grande banlieue, il fallait donc trouver d'autres façons où le prêtre est très présent dans les communautés, mais pas omniprésent. Et en fait, la lecture de Madeleine m'a aidé beaucoup à un livre qui s'appelle « Communauté selon l'Évangile », qui est un recueil où chaque cellule chrétienne, au fond, est appelée à vivre selon l'Évangile et pas simplement à faire une bonne organisation paroissiale. Et j'ai passé un an sur quelques textes. Je me rappelle, chaque matin, je lisais parfois juste un petit paragraphe, une phrase, 2 phrases, pas plus. Ça a duré un an. Voilà, c'était en 1996, ça. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré cette femme qui me parlait alors qu'elle était dans un contexte quand même sensiblement différent.
Un contexte différent et un parcours, j'imagine, qui n'est pas le même. Le parcours de Madeleine Delbrel, c'est un parcours tout à fait original.
Oui, c'est ça. Elle s'est convertie à l'âge de 19 ans. Après 4 années d'athéisme nihiliste, on peut dire, il n'y a pas de Dieu et nous allons à rien du tout. Il n'y a pas ni foi ni amour, juste un peu d'amour à la sauvette. Elle était dans cet esprit-là et elle est gagnée par un questionnement. Bon, elle est une femme très intelligente et elle rencontre des chrétiens aussi très intelligents. Sauf que peut-être ils l'ont aidée. Comme elle dit, la question de Dieu est redevenue possible. Et c'est comme ça qu'elle a été gagnée par un jeune qui est devenu dominicain après, qui au départ, on peut dire qu'elle a été très amoureuse de lui pendant tout un temps. C'est comme ça qu'elle s'est à la fois réouvert à l'amour et à la foi. Voilà. Donc c'est un itinéraire qui commence par un très très grand éloignement dans le nihilisme. Et puis après, elle est dans l'esprit de faire une œuvre littéraire, d'avoir une carrière. Elle veut écrire des poèmes, elle se présente à un prix littéraire. Tout cela marche plutôt bien. C'est en même temps la période de sa conversion.
Entre sa conversion et les dernières années de sa vie où elle va découvrir cette maternité dans l'Église,
oui.
Quels sont les grands moments de Madeleine Delbrel, ceux qui, pour vous, Père Gilles François, sont des moments charnières, des moments clés?
Il y a une première conversion qui a lieu en 1924. Elle écrit un poème qui s'appelle « Le désert ». Elle vit comme un appel au désert. Elle entend une situation de solitude qu'elle vit peut-être plus au début comme un sacrifice. Voilà, c'est comme un temps de désert. Mais vous savez, c'est très présent. La femme de l'Apocalypse, elle accouche et puis Dieu l'emmène au désert et Dieu la nourrit au désert. On a l'impression que ça dure quand même ça pendant 4, 5, 6 ans. Pourtant, elle rencontre le scoutisme, elle devient chef Tenlufto, voilà, bon, elle s'engage, elle rencontre d'autres jeunes.
C'est important à cette époque-là?
Oui, parce que c'est comme ça qu'elle rencontre l'Église, les autres chrétiens. Sinon, sa conversion est dans une très grande solitude. Elle a rencontré un chrétien et elle va seulement après vers l'Église. Et en 1930, grande étape, ce sont effectivement ces noces mystiques dont nous n'avions pas tellement connaissance. Nous en avons connaissance depuis 4 ans seulement, grâce à des lettres qu'elle écrivait à son confesseur et que son confesseur a jugé bon de garder. Et ces notes mystiques ont vraiment une très grande singularité parce qu'elle dit « Jésus m'a demandé en mariage » et très vite elle annonce un amour d'épouse et un amour de mère vers les autres âmes. C'est-à-dire que c'est à la fois l'union au Christ, alors elle précise d'ailleurs, c'est l'âme qui s'unit au Christ, et par la croix, portée dans un amour maternel.
Pour les autres âmes.
Oui, c'est ça, oui.
Comment est-ce qu'elle l'a découvert ? Par des rencontres, par des lectures, par la prière ?
Oui, elle lit beaucoup. Entre sa conversion et ses noces mystiques de 1930, elle lit Claudel, elle lit Catherine de Sienne, Peggy. Elle garde une très grande admiration pour Baudelaire aussi, qui a une expression de la présence du mal extrêmement forte. Elle lit aussi l'abbé Brémond, qui a fait une très grande, très belle compilation sur l'histoire de la mystique à travers de la spiritualité à travers les siècles. Elle est nourrie de tout ça, puis elle est nourrie de cet engagement concret dans le scoutisme et assez rapidement, elle est imprégnée par l'esprit des béatitudes, heureux les pauvres de cœur. Elle est elle-même dans une situation de pauvreté parce que son père est malade, son père a des problèmes psychiques. Il va mener une vie très difficile à sa femme et à sa fille Madeleine. Donc elle est elle-même plongée dans une grande situation de pauvreté, dans un dépouillement intérieur, mais qui nous arrive à tous. Qui n'a pas dans sa famille quelqu'un de difficile qu'il faut porter au quotidien ? C'est vraiment dans les jours ordinaires de nos vies. Hein. Et je crois que c'est cet esprit des béatitudes qui fait qu'à un moment donné, il y a ces noces mystiques. Alors c'est une grâce du Seigneur, c'est Jésus qui... Elle commence, c'est assez impressionnant, la lettre du 11 octobre 1930 commence par « Jésus m'a demandé en mariage ». On est très très étonnés, mais c'est les mystiques. Ils écrivent une expérience avec les mots aussi qu'ils ont trouvés, parce qu'elle a pu le voir écrit ailleurs. Elle le reprend et simplement, elle déploie de manière originale cette union au Christ qui est un élan du Christ vers les autres âmes. Et donc, c'est pour ça qu'elle comprend qu'elle est mère en même temps. D'ailleurs, Mgr Veuillot a très bien compris ça. Après la mort de Madeleine, il témoignera que la singularité de Madeleine, c'est ce qui est étonnant chez elle, c'est cette union à Jésus-Christ qui lui a donné toutes les audaces et toutes les libertés. Elle était tellement unie au Christ qu'elle avait toutes les audaces et toutes les libertés. On sent très bien ça. Comment a-t-elle pu vivre autant d'années auprès de communistes qui n'étaient pas les derniers à tendre des pièges pour amener les gens dans leur camp ? Elle n'est jamais rentrée dans leur camp. Elle a toujours accepté de travailler avec eux sur des choses bien précises et bien délimitées. Et soit dit en passant, c'est ce qui fait qu'ils l'ont respecté et qu'ils sont devenus amis avec elle, parce qu'ils ont vu qu'ils ne l'avaient pas attrapé. C'est un témoignage très fort et qui montre cette union au Christ et cet élan vers les autres, tous les autres. Au fond, quand dans les années 50, elle sera dans le contexte de la guerre froide, avec la peur que le communisme mondial envahisse tout, elle sera à la fois très ferme et très présente, très aimante, très respectueuse, mais très ferme, avec tous les gens. Voilà, c'est un amour du Christ pour tous les hommes, y compris ceux qui sont potentiellement des ennemis. Alors ça, je crois que c'est fondé dans ces noces mystiques de 1930, que nous ne connaissions pas. Le père Bernard Pitot et moi-même, nous venons de publier un livre qui s'appelle « Madeleine Delbrel, Genèse d'une spiritualité », où nous expliquons cela. Il y a une face intérieure, c'est comme si Madeleine était une magnifique cathédrale, et que l'extérieur est magnifique, c'est ça qui était connu jusqu'ici. Et puis nous découvrons l'intérieur, qui ne devait pas être découvert auparavant peut-être, parce que c'est comme Mère Teresa, dont les lettres intimes ont été publiées, parce que l'Église a jugé que ces lettres du fort interne ont un enjeu pour toute l'Église, pour l'aventure spirituelle des hommes. Cette mystique n'est pas une espèce de décollage de la terre, mais au contraire, quelque chose qui met à la fois les pieds sur terre et la tête dans le ciel, parce qu'on est unis à Dieu. Et c'est très très décisif pour notre temps.
Comment est-ce que Madeleine Delbrel nous aide à être missionnaire ? Et missionnaire, pas forcément autre part que là où nous sommes. Elle dit aussi, nous autres gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Et aussi oui. De notre mission, on peut dire.
Oui, et si nous prenions simplement au sérieux notre quotidien, les gens avec qui nous vivons chaque jour, au travail, dans notre famille, laissons-nous guider, laissons la parole de Dieu, comme elle dit, descendre jusqu'au plus profond de nous. Parce que c'est là, dans cet ordinaire, que se trouve le lieu de notre sainteté. C'est là où le Seigneur a besoin de nous. Il n'y a que nous qui sommes là. Et vous offrez un lieu à Dieu, comme elle dira plus tard.
Et vous offrez un lieu à Dieu, elle dit aussi, « Apprenez-nous, Seigneur, à revêtir chaque jour notre condition humaine, comme une robe de bal. »
Ah, c'est magnifique, comme une robe de bal, oui. Où chaque instant sont comme des bijoux qui vont habiller cette robe. Je crois qu'elle incite vraiment à se libérer du jugement sur la taille de ce que nous faisons. Des fois, nous croyons que nous sommes en train de faire des grandes choses. Et c'est pas grand du tout. Et puis après, oh là là, je suis en train de faire quelque chose, ça n'a l'air de rien du tout. Et puis on s'aperçoit quelques temps après que c'était vraiment ça qui était important. Donc Madeleine laisse le Seigneur faire quant à la taille des événements. Et ordinaire ne veut pas dire minuscule, ça veut dire ce qui arrive, ça veut dire les circonstances. Et puis c'est le Seigneur qui sait la taille, puisque c'est le royaume qu'il construit à travers cela. La taille des choses, faut laisser le Seigneur faire.